My name's Eva. Welcome to my page. Follow me. This is my page for random thoughts, crushes, my hashtag BFFs. One day, I'll be a famous reporter. But for now, I live with my grandparents.
Now you make a wish?
Dirty Jew.
Hitler conquered us. Like that. We have to go home right now. Immediately.
Jews can no longer own businesses.
Get the fuck out!
From today, I must document everything that happens to us.
Eva Stories, c'est le titre d'une vidéo postée en Israël en mai 2019 sur Instagram qui met en scène, sous forme de courts épisodes, la vie d'Eva Heyman, une jeune Hongroise juive de 13 ans qui fut déportée à Auschwitz en 1944. Résultat, 1,5 million d'abonnés en moins d'un an et quelques critiques. Alors qu'on commémore ces jours-ci le 75e anniversaire de la libération du camp Auschwitz-Birkenau, on a appris que fort du succès de la série, les auteurs comptaient élargir encore plus son audience en la postant sur Snapchat à partir de lundi prochain. Ce qui n'a pas manqué de provoquer un débat en Israël et au-delà, puisque c'est arrivé jusqu'à nos oreilles. Traiter d'un sujet aussi grave que la Shoah sur Instagram est-il acceptable au nom de l'information du jeune public et pourquoi ce ne le serait pas? Passer par les réseaux sociaux est-il aussi indispensable pour informer les plus jeunes? Nous allons poser ces questions à nos deux invités du jour. Valérie-Jeanne Perrier, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à vous. Vous êtes enseignante-chercheure au CELSA, où vous êtes responsable de l'école de journalisme. Et vous êtes une bonne connaisseuse des réseaux sociaux auxquels vous avez consacré deux ouvrages récemment. En face de vous se trouve Marion Gillot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes pour votre part rédactrice en chef du Monde des ados, qui est un bimensuel qui appartient aujourd'hui au groupe Fleurus Press et qui cible les 10-15 ans.
Voilà, exactement.
C'est ça. Bon, alors on va commencer par ces Eva Stories. Juste ce qu'on voit, puisque c'est comme un journal intime. On a un épisode par jour, plus ou moins long. Le tout fait 70 épisodes. On est en anglais, sous-titré en hébreu. Et c'est une jeune actrice britannique qui incarne Eva Heyman et qui raconte face caméra, enfin la caméra de son smartphone, hein, façon selfie, sa vie depuis l'arrivée des nazis dans sa ville natale jusqu'à sa déportation à Auschwitz. Les dernières images, c'est elle avec sa grand-mère dans un wagon. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette story sur Instagram? Je ne sais pas si vous avez vu tous les épisodes ou si vous en avez vu que certains. Je crois que Marion Gillot, vous êtes plutôt frileuse par rapport, non pas forcément à ça, mais au fait qu'on le voit sur Instagram.
Si, vous avez raison.
Frileuse, globalement.
Alors, oui, globalement, mais après, moi je suis ouverte à la discussion. C'est vrai que, moi ce qui m'est venu tout de suite à l'idée, voilà, on est dans la story, on est dans l'histoire, on est dans une fiction, on n'est pas dans l'information. Donc, c'est vrai que, forcément, on regarde ça avec un... Oui, un petit peu de réticence après. Donc les adolescents pour lesquels on écrit entre 10 et 15 ans sont quand même globalement beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc en fait, il faut pas fermer la porte complètement. Moi, je l'ai pas montré à des ados, mais je vais avoir l'occasion lundi parce que j'ai trois ados qui sont en stage de troisième à la rédaction pour une semaine. Donc, je vais leur montrer, je vais leur demander ce qu'ils en pensent. En fait, on fonctionne aussi comme ça à la rédaction, quand on a des doutes sur quelque chose, ou là, je sais pas si on va en parler ou pas, ou le relayer. Pour l'instant, je ne l'ai pas relayé sur les réseaux sociaux du Monde des Ados. Mais je pense que lundi, ça va être une bonne occasion pour eux de démarrer leur stage et de me dire ce qu'ils en pensent.
Je vais donner la parole tout de suite à Valérie-Jeanne Perrier, mais un mot sur le mot de fiction que vous avez prononcé, Marion Gillot. Est-ce que c'est le fait que ce soit une fiction qui vous gêne? Parce que ça a été déjà fait au cinéma, il y a eu d'ailleurs beaucoup de débats sur les fictions, on pense à La vie est belle, on pense à La liste de Schindler, bien sûr. Ou est-ce que c'est le fait que ce soit donc en story sur Instagram, c'est-à-dire sur un réseau social, sur un smartphone,
oui,
et qu'on peut le regarder dans le bus en cliquant, en avançant?
C'est vraiment ça qui me gêne, c'est que, en fait, avec le réseau social, on est, enfin Instagram, on est vraiment en face à face avec soi-même. Et moi, je suis pas sûre. Je les ai regardées, hein, les stories. Je n'ai pas tout regardé. Mais bon, par exemple, la scène de l'arrestation dans le ghetto. Enfin, c'est une scène très très dure. On est dans le bus, on rentre chez soi, ou on est dans la rue, on regarde ça. Moi, je suis pas sûre que ce soit, enfin, vraiment idéal pour un ado de recevoir cette story, parce qu'on va pas parler d'information. C'est un peu ça le problème du réseau social, c'est-à-dire que il y a pas d'accompagnement. Aller au cinéma pour voir un film, bon, on le sait, on est au cinéma. Là, moi, lundi, quand je vais le montrer à mes trois stagiaires, je serai là pour leur en parler. Donc bon, ce sera pas complètement, ils vont pas se retrouver tout seuls face à cette story, mais globalement, les enfants sont seuls avec leur téléphone.
Valérie Jeanne Berrier.
Alors c'est sûr qu'on change vraiment de registre hein, avec la story. Peut-être qu'il faut revenir sur ce format très particulier. En fait, c'est un espace dans lequel vont se succéder des images, alors animées ou fixes, et qu'on peut guider par le rythme du clic sur le téléphone. Donc on consomme à son rythme quelque chose qui ressemble soit à un documentaire, soit à une succession d'images. Là, ce qui est vraiment impressionnant dans les Eva Story, c'est que en fait, on a un film séquencé qu'on va consommer à son propre rythme. Et c'est ce changement de registre dans la manière de consommer de l'information. Alors là, moi, je suis peut-être pas tout à fait d'accord sur l'idée qu'il n'y aurait pas d'information. On voit beaucoup de choses quand même dans cette histoire. On voit tout le processus hein, de la déportation, de l'arrestation. Même avant, on voit l'angoisse qui monte quand la famille se trouve être réfugiée dans un espace confiné. On sent l'émotion. Et c'est ce registre, ce double changement de registre. On passe de l'émotion à quelque chose de plus angoissant, c'est aussi le fait qu'on passe de quelque chose qui est distant, le film réfléchi, à quelque chose qui est plus émotionnel, qui peut sans doute provoquer des questions. Mais en même temps, ce qu'on voit, c'est que ces changements de registre, ces proximités de discours, les adolescents sur Instagram les maîtrisent très bien. Ils ont compris les codes de cet espace particulier. Dans cette plateforme, tous les discours se juxtaposent. Alors c'est vrai qu'on est habitué dans cet espace à des choses qui sont plus orientées vers la consommation, le bien-être, la relation, ce qu'on appelle aussi le LOL. Hein, vous savez, cet espace où on rit un peu de tout, des choses qui sont banales. Là, tout d'un coup, dans le registre et le flux de sa consommation quotidienne, on peut se retrouver avec quelque chose qui est lourd, historique, et pour lequel on n'a pas toujours nécessairement toutes les clés. Mais encore une fois, un profil sur Instagram ne se consomme pas uniquement dans le fait de cliquer sur les images qui se succèdent. On apprend à décoder, par exemple, l'espace dans lequel on va présenter la personne qui va prendre la parole, l'énonciateur. Et là, sous l'image qui incarne la jeune fille qui va raconter son histoire, il y a tout de suite la précision que c'est un documentaire, qu'il va y avoir un rythme. Enfin, il y a quand même un minimum...
Une mise en contexte
qui fait que on a n'arrive pas complètement abruptement dans cet espace de narration. Alors c'est sûr, c'est une fiction. Et encore une fois, se repose la question de savoir si on peut traiter de sujets aussi graves et historiques de cette manière-là, avec un nouveau média qui va vraiment jouer sur les nouveaux codes de la sérialité qui viennent du documentaire et qui viennent aussi des séries qu'on consomme par ailleurs dans d'autres espaces.
Avec peut-être, Marion Gillot, cette différence justement entre un réseau social comme Instagram, et je crois que ça va être encore pire avec Snapchat, parce que Snapchat, ça passe très très vite.
Oui,
la différence justement avec un journal, hein, comme le Monde des Ados, le Monde Ancien aujourd'hui,
voilà, c'est ça.
C'est justement ce risque d'une mémoire éphémère, de ce côté oui. zapping, oui. Vous l'avez dit, où on passe de Eva Eman à Kim Kardashian en un clic, quoi.
C'est ça, en passant par Gambi, qui est le rappeur préféré des ados en ce moment. Mais
c'est un risque.
C'est un risque. Voilà, ben Valérie vient d'expliquer très bien. Alors effectivement, moi, c'est vrai que c'est pas trop le côté fiction, parce qu'on en a déjà vu des fictions. Mais moi, c'est vraiment comment les enfants, à quel moment ils vont recevoir l'information à 10 ans. Voilà, je pense
que Snapchat c'est encore plus jeune, hein.
Oui, Snapchat.
Alors oui,
Valérie Jeanne Perrier.
En fait, les chiffres pour Instagram sont assez étonnants, hein. C'est plus de 66% des jeunes français de moins de 15 ans qui quotidiennement passent du temps habitants sur Instagram, sur Snapchat, c'est sans doute les mêmes chiffres. Ce sont les deux réseaux qui rencontrent un grand succès auprès des plus jeunes. Et en plus, arrive un troisième nom, c'est TikTok, qui représente la même façon de consommer l'information, des images stratifiées, de commentaires, de gifs, de tous ces éléments qui viennent raconter des histoires de manière brève, très séquencée, et qui se succèdent les unes après les autres.
Marion Gillot, pardon.
Oui, alors moi c'est vrai que face à ça, nous, le monde des ados, bon, on prend le temps. Voilà, je pense que ça c'est important aussi de le dire. Il y a là-dessus, il y a un problème de temporalité. Moi, j'ai relu hier soir pour préparer un petit peu l'émission de ce matin un récit que j'avais écrit. J'ai rencontré un déporté il y a quelques années, Maurice Kling, qui a été déporté arrêté le jour de ses 15 ans, et j'ai relu mon article hier soir, et je pense que les ados, enfin je le sais, gardent leur monde des ados, le relisent peut-être 2 ou 3 ans après, et ça je pense que face à Instagram ou à Snapchat, ça a une force, c'est une vraie force aujourd'hui de choisir le moment au cours duquel on va lire son journal, d'être dans son lit. Ça, ils nous l'écrivent, hein, les ados, c'est pas, je dis pas ça comme ça. Je suis content, je reçois mon journal, je vais enfin pouvoir le lire, je le reprends. Et ça, je pense que c'est quand même très important dans notre société aussi de prendre le temps de se poser, d'aller voir une expo, d'aller voir un film, éventuellement d'aller à Auschwitz, comme ça se fait pour certaines classes.
Pas nécessairement pour prendre des selfies.
Pas nécessairement pour le prendre tourisme, des selfies. Ça, c'est une autre chose apparaître. À laquelle, effectivement, j'ai réfléchi. Je trouve que, effectivement, ça peut encourager les enfants. Quand on voit une story sur Instagram, bah, si on est à Auschwitz, pourquoi on ne va pas faire un selfie? Ça, je ne suis pas sûre que ce soit génial.
Valérie Jeanne-Perry.
Alors, je voudrais pas me retrouver dans la posture de vouloir absolument défendre les plateformes et leur économie et leur modèle de narration, mais je pense qu'il faut pas opposer nécessairement la consommation d'un support plus traditionnel ou même l'écoute d'un témoignage. On en entend beaucoup qui sont vraiment extrêmement forts en ce moment. Et d'ailleurs, on est dans cette urgence d'essayer de capter ces derniers témoignages parce que vraiment là, on sent qu'on passe une génération et qu'après les derniers survivants ne seront plus dans cette capacité de nous transmettre directement ce qu'ils ont vécu et comment ils l'ont vécu et comment ils font l'effort aussi de nous transmettre ces histoires qui sont très très dures. Et donc je crois qu'il ne faut pas opposer ces supports de la mémoire à, je crois, l'orientation, l'objectif de ces stories à travers le cas notamment d'Eva Story. Je crois que là l'idée c'était de donner l'alerte, de rappeler que cette histoire elle ne va pas s'effacer et qu'il faut la transmettre de coûte que coûte, à une nouvelle génération qui a de nouvelles manières de s'informer. Et peut-être que le rôle d'Eva Story, c'est de jouer un peu peut-être sur cette idée de l'émotion, de cette polémique, qui va venir rappeler que cette histoire existe et qu'on peut aller plus loin que ces stories, et peut-être engager la conversation avec soit ses pairs, PAIR, hein, ses autres camarades, sa famille, son entourage, ses professeurs, pour ne pas oublier et amorcer la discussion et renvoyer à d'autres sources.
Moi, c'est vraiment de sensibiliser les plus jeunes à cette histoire, ça, en exactement. Utilisant un outil qui est apprécié de sa génération.
Et d'ailleurs,
le
registre, hein, quand on regarde ce film, c'est un film séquencé à la manière d'Instagram, on voit bien qu'il y a tout un travail de l'émotion, des détails qui sont glissés comme ça et qui amènent à se dire mais qu'est-ce qui s'est passé, comment c'est possible, comment on peut se retrouver dans cette situation d'être enfermé, comment on peut être mis dans des camions, qu'est-ce qui se passe, c'est émotionnel, hein, vraiment c'est très très fort.
Au-delà de Eva Story et de ce film, par rapport à ce que vous disiez l'une et l'autre d'ailleurs sur la façon dont aujourd'hui les 10-15 ans, même peut-être on peut élargir aux 13-34 ans, regardent et consomment de l'information avant tout par les réseaux sociaux, je vais me tourner vers vous Marion Gillot en tant que rédactrice en chef du Monde des Ados, le fait que ces jeunes générations accèdent de plus en plus à l'information par bribes, par à-coups, peut-être en étant moins attachés à un support, est-ce que ça change votre façon, vous, de faire le journal? Est-ce que depuis, je ne sais pas, 5-6 ans, le bimensuel qu'est le Monde des Ados a changé son approche? Est-ce que les ados, vos lecteurs et lectrices, vous renvoient des choses complètement différentes dans la façon qu'ils ont de de lire le journal, tout simplement. Aussi bien dans les choix que vous faites des sujets, hein, dans l'actualité, de cette distance et de ce temps, que surtout le format, les articles en eux-mêmes, etc. Quel est l'impact, en fait, des réseaux sociaux et de ses usages sur vous?
Il n'est pas si grand, parce que, bon, bien sûr, moi, je veux pas non plus... on n'oppose pas les réseaux sociaux à l'information papier, mais... Nous, face à ça, j'ai pas l'impression qu'on ait changé notre façon de faire sur le choix de nos sujets ou sur la façon de les traiter. C'est tellement vrai qu'il y a un mois, on a passé une semaine dans un collège pour traiter la vie des ados complètement à fond. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, aller passer une semaine dans un collège, c'est un vrai luxe pour des journalistes. On s'est installé dans un petit collège rural des Deux-Sèvres. Donc là, on a vraiment pris le temps... Donc face à l'info par bribes, non, nous on répond par...
Vous tenez bon.
On tient bon et moi j'y crois encore. La bonne nouvelle du jour, c'est que l'audience du Monde des Ados a augmenté de 8,6%. On a plus de lecteurs en 2019 qu'en 2018, donc je pense que l'info papier a encore de beaux jours.
Alors vous, Valérie-Jeanne Perrier, vous récupérez les ados devenus des étudiants au CELSA. Est-ce que vous avez constaté, vous aussi, un changement d'approche de l'actu depuis quelques années?
Alors c'est paradoxal. On entend souvent dire que cette génération qui arrive est très à l'aise avec les réseaux sociaux, qu'elle est capable de beaucoup de choses, qu'elle est plus habile avec ses dispositifs pour informer. On est parfois surpris de voir à quel point aussi certains sont noyés, en fait, par rapport à tous ces dispositifs. Alors, ils ont quelques ressources, ils ou elles, hein, d'ailleurs, on a des étudiants et des étudiantes, et d'ailleurs, le métier de journalisme se féminise. Nos étudiants, parfois, sont uniquement attachés à une ou deux ressources, et puis le reste, ils oublient. Par contre, ils sont très habiles avec la manière de décoder les différents formats. Ils ne sont pas dupes des effets de narration que provoque, par exemple, une story. Donc, il y a une sorte de paradoxe, à la fois une grande habileté à décoder les outils et les dispositifs, mais en même temps parfois une restriction dans le nombre de sources qu'ils sont prêts à consommer pour s'informer. Et donc tout le travail en école de journalisme, c'est souvent aussi de réouvrir la question du nombre des sources pour apprendre à les croiser, à les vérifier, puis à les sélectionner, les faire circuler, et aussi peut-être aussi à les hiérarchiser, parce que c'est la question de la hiérarchisation de l'information qui reste aussi complexe avec ces réseaux sociaux.
Et peut-être pour boucler la boucle, la plus grande des difficulté pour les journalistes, c'est aujourd'hui d'adopter une culture de la mutation permanente, puisque vraiment nous sommes dans une société qui avance quand même très très vite et tout change en permanence. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues nous donner votre témoignage et de participer à cette fabrique médiatique. Valérie-Jeanne Perrier d'un côté et Marion Gillot de l'autre. Et peut-être Merci. On peut juste donner le dossier du Monde des Ados qui vient tout juste de sortir. Ados à la campagne, ils prennent la parole.
Voilà, c'est notre numéro spécial suite à la semaine qu'on a passée dans le collège Louis-Mère de Secondigny dans les Deux-Sèvres, petite commune de 1900 habitants.
Merci beaucoup.